Après la messe de 9h, au moment du café, j'ai échangé avec un de nos fidèles. Alors on a parlé un peu sur l'évangile du jour. La personne me disait comment elle avait aimé le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Et moi je lui ai dit que je trouvais aussi le même texte d'une beauté exquise. D'abord dans son style littéraire et ensuite dans le message même qui est livré, qui est proposé aux chrétiens et chrétiennes en ce dimanche. Je voudrais utiliser l'image, la façon que voient Ambroise et Augustin quand ils réfléchissent sur ce texte, sur ce texte-ci. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, regardez, il y a d'un côté la miséricorde, ça c'est Jésus. De l'autre côté, la misère, le péché de la femme, la honte, l'humiliation. Il y a d'un côté le cœur miséricordieux de Dieu, c'est Jésus. De l'autre côté, il y a le cœur rempli, le cœur dur, dur comme pierre. Les accusateurs, avec les pierres en main, ils ont le cœur dur. Voyez-vous. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand la miséricorde rencontre la misère? Que se passe-t-il quand le cœur miséricordieux rencontre le cœur dur? Voyez-vous, pour saisir l'enjeu, il faudrait voir comment les accusateurs ont monté un piège presque parfait. Parce que ils savaient bien que l'enseignement de Jésus posait sur la bonté, la miséricorde, le pardon, l'accueil des pécheurs. Mais maintenant, eux, ils sont partis prendre une femme qui disent en flagrant délit d'adultère. Et même la loi de Moïse disait qu'il fallait prendre l'homme et la femme. Même d'une manière injuste, ils prennent seulement la femme. Et ils vont chez Jésus. Pourquoi? Ils vont poser la question à Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce qu'il faut lapider cette femme-là, comme dit la loi de Moïse, qui est considérée comme la loi de Dieu, ou la laisser? Si Jésus dit oui, il faut la lapider, alors à ce moment-là, Jésus devient incohérent avec son message sur la miséricorde, l'accueil des pécheurs, la bonté de Dieu, l'amour miséricordieux. Mais maintenant, s'il dit non, on ne va pas la lapider, on va la laisser partir, à ce moment-là, ils vont se lever, vont dire, parce que c'est devant tout le monde, ça c'est pas devant toute une foule que Jésus enseignait. Alors ils vont dire aux gens, regardez votre maître, il ne suit pas la loi de Moïse. Quel type de maître est-il? La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? C'est ainsi que le premier geste, la première attitude, dit le texte, Jésus s'épanche et commence à tracer des traits sur le sol. Comme pour dire, moi là, je ne veux pas du tout regarder la femme adultère, dans le sens que je ne veux pas l'humilier, je ne veux pas l'écraser, je ne veux pas lui jeter un regard d'accusateur, je ne veux pas la condamner. Je me penche, je crie. Aussi, le Seigneur s'épanche et écrit parce qu'il ne veut pas non plus accuser les accusateurs, donc les pharisiens et les scribes. Il ne veut pas jeter sur un regard accusateur, il ne veut pas le condamner. Il s'épanche, il ne le regarde pas, il écrit. C'est ainsi que les mêmes pharisiens et les scribes insistent, ils insistent et ils insistent. Alors le Seigneur de se lever, eh bien, celui qui parmi vous est sans péché, en avant-marche, qui lui jette la première pierre. Alors là, ces paroles de Jésus ont touché, ont remué la conscience des accusateurs. C'est parti droit dans leur cœur, parce que en écoutant ces paroles-là, il y a eu comme une transformation intérieure. Personne n'a osé de jeter une pierre sur la femme. Ils sont tous partis. Comme pour dire, le Seigneur Jésus a libéré ces personnes-là, a libéré les scribes et les pharisiens de l'irréparable qu'ils étaient sur le point d'accomplir. Le Seigneur a libéré ces personnes-là de leurs péchés, de leurs mauvaises intentions. de leur mesquinerie. Mais ce n'est pas tout. Ils sont partis, libérés. Alors quand le Seigneur reste seul avec la femme, il pose la question, où sont ceux qui t'accusaient? Et la personne de répondre, il n'y a personne, Seigneur. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. La miséricorde du Seigneur libère cette femme-là de la mort, du péché, de l'humiliation, de la honte, de l'angoisse, de la peur. Elle est libérée. Elle se sent toute reconstruite, toute relevée. Mes amis, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu ennoblit, guérit, relève, rachète et puis nous relance sur la voie de l'espérance, nous ouvre un nouvel avenir. C'est ce qui se passe avec cette femme-là. Mais maintenant, l'évangile est toujours un miroir. C'est-à-dire, nous le regardons et nous voyons notre face. Comme pour dire, il ne faut pas qu'on se précipite là pour montrer du doigt les pharisiens et les scribes et la femme adultère. Parce que et les pharisiens et les scribes et la femme adultère reflètent notre âme pécheresse. Parce que chaque fois que nous nous détournons de Dieu et nous commettons le péché d'humiliation, chaque fois que nous condamnons des personnes, chaque fois que nous salissons la réputation des personnes, chaque fois que nous commettons des commentaires, nous faisons des commentaires négatifs, chaque fois que nous écrasons les personnes, nous commettons le même péché que les scribes et les pharisiens, que la femme adultère. Chaque fois que nous trahissons notre amitié, chaque fois que nous trahissons nos amours, chaque fois que nous ne sommes pas fidèles à nos engagements, chaque fois que nous trahissons, eh bien, nous reproduisons l'image des accusateurs et de cette femme de l'évangile d'aujourd'hui. Mais maintenant, pour s'en sortir, il faudrait s'ouvrir à l'amour miséricordieux de Dieu. De même que le Seigneur n'a pas condamné les accusateurs, de même qu'il n'a pas condamné la femme adultère, de même le Seigneur ne nous condamnera pas si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, un cœur tout ouvert à lui. Il nous dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. L'amour du Seigneur, mes amis, quand nous nous tournons vers lui, l'amour du Seigneur nous reconstruit, nous relève. L'amour du Seigneur nous ennoblit, comme je le dis. L'amour du Seigneur nous relance sur les voies d'espérance. L'amour du Seigneur ouvre un nouvel avenir, continuellement. Le Seigneur n'est pas celui qui écrase, il est celui qui relève et qui nous ouvre les portes nouvelles, la porte de la miséricorde, pour qu'on aille pour un changement de cœur, pour une transformation intérieure. Maintenant, quand le Seigneur nous a pardonné, quand nous avons vécu cette expérience exceptionnelle de l'amour miséricordieux de Dieu, c'est à notre tour de l'exprimer. C'est à notre tour de suivre l'exemple de Jésus lui-même pour reproduire le même pardon, la même miséricorde, le même amour miséricordieux dans le quotidien. Et l'endroit le plus propice d'abord pour vivre cet amour-là, eh bien, c'est dans notre propre famille, c'est dans notre milieu de vie, c'est avec nos proches. C'est là que nous sommes appelés à vivre le pardon, à accueillir le pardon de Jésus et ensuite à le partager. Parce que le pardon de Jésus, la miséricorde de Dieu, est ce qui fait que des sœurs et des frères de même sang puissent se réconcilier. Le pardon, c'est cette force de Dieu qui fait de la sorte que l'époux et l'épouse puissent se réconcilier. La miséricorde de Dieu, Et cette puissance de Dieu, puissance de l'amour de Dieu, qui fait que les rivalités dans la famille, qui fait que les disputes familiales puissent être surmontées. Le pardon a le pouvoir de nous amener à la réconciliation. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut regarder le cœur miséricordieux de Jésus pour laisser les lumières de la miséricorde venir nous pénétrer. De cette manière-là, quand nous poserons un regard sur les personnes en difficulté, sur des personnes qui ont des troubles de personnalité, sur des personnes qui vivent des dépendances, sur des personnes qui sont dans des angoisses, notre regard ne sera jamais un regard accusateur, un regard humiliant, un regard qui écrase, mais ça sera le regard de Jésus qui patiente, qui a pitié, qui relève, qui donne de l'espoir. Et même si nous sommes devant une situation de sorte qu'il y a de l'angoisse chez les gens, il y a de la peur, il y a de la détresse, que nous apprenions à nous pencher pour écrire sur le sol. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas humilier les personnes avec notre regard. Parce que nous ne voulons pas nous moquer des personnes qui sont au-devant de nous. Durant la retraite paroissiale, j'ai donné un exemple que je voudrais reprendre. C'est qu'en fait, l'exemple vient de Saint François de Sales. Lui, il dit à peu près ceci. À supposer que vous avez votre âne et que vous êtes en train de traverser la rue. Au milieu de la rue, l'âne fait un mauvais pas, l'âne glisse, l'âne tombe. Et Saint François décide de dire, le propriétaire ne va pas prendre le fouet, commencer à frapper encore l'âne et dire, écoute, relève-toi, qu'est-ce que tu fais là? Il faut avoir pitié de l'âne parce que l'âne est déjà malheureux. Le fait qu'il soit tombé au milieu de la rue et que tout le monde le voit, il est humilié. Plutôt, le propriétaire devrait dire à l'âne, écoute, t'en fais pas. La fois prochaine, tu feras plus attention. Relève-toi, on peut encore continuer, on peut encore marcher. Voilà ce que Dieu fait avec chacun, chacune d'entre nous. Et c'est François de dire, voilà ce que le confesseur devrait faire à la confesse. Tu ne vas pas à la confesse pour être torturé, dit le pape François aussi, dit au prêtre. Quand la pénitente vient à la confesse, ce n'est pas pour recevoir des coups de fouet. Elle est déjà malheureuse quand elle vient à la confesse. Elle souffre déjà dans son cœur. Alors ce n'est pas le moment de lui la faire torturer la personne. Alors, cet exemple-là, c'est ton exemple, c'est le mien. Tu es devant les personnes en souffrance, tu compatis avec les personnes. Tu ne vas pas le plonger davantage dans leur angoisse, davantage dans leur souffrance. Il faut regarder plutôt le cœur miséricordieux de Dieu. Et je finis avec cet bel exemple aussi que le pape partage aussi dans son dernier livre. Il dit que quand il était jeune prêtre, en Argentine, une fois, une personne va le voir. Alors il échange avec la personne. Alors la personne le faisait comprendre au pape, jeune prêtre à ce moment-là, qu'elle s'est pratiquement haïssée parce que la personne avait fait tant de mal dans le monde. Elle a fait tant de péchés. Elle disait, personne ne peut pardonner ses péchés. Elle disait au pape à ce moment-là, jeune prêtre, lui disait, tu sais, si je te raconte ma vie, tu vas être scandalisé, tu ne vas pas t'en revenir. Je ne vais pas oser le faire parce que je ne vais pas te faire mal. Je ne vais rien te dire. Le pape, jeune prêtre à ce moment, lui dit, écoute, c'est très bien, mais ce que tu peux faire, hein, va raconter tout ça à Jésus. Parce que lui, là, Jésus, il aime ce genre de choses. Il va t'écouter très patiemment. Et puis, tu sais quoi? Il te dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Voyez-vous, c'est continuellement ce que Jésus dit à chacun, chacune d'entre nous. Alors ce qu'on va faire, durant la célébration de ce jour, on va se tourner vers le corps miséricordieux de Dieu, lui demander de nous donner ses grâces et bénédictions pour qu'à notre tour, nous apprenions à les concrétiser au quotidien. L'Eucharistie que nous allons prendre, la communion, le corps et le sang du Christ ont cette capacité-là, ce pouvoir-là de nous transformer, de rendre notre cœur semblable au cœur de Jésus, de nous apprendre à aimer comme Dieu aime, de nous apprendre à pardonner comme Dieu pardonne.